Oui, bonjour, chers auditeurs. Nous avons vu dans la première émission sur l'Évangile selon saint Jean qu'il y a dans les civilisations orales des techniques de transmission. En récitant, on se balance de droite à gauche et le récit, ou plus exactement le récitatif, est composé pour cela. Ensuite, la mémoire est aidée par des associations d'idées ou par des associations de mots-clés. Le comptage est à la base de toute mémorisation en culture orale. Alors on compte, par exemple avec des perles que l'on enfile dans un collier. Donc voilà pour le vocabulaire de l'exégèse d'oralité, si vous voulez. Souvenez-vous de la préface de Monseigneur Mirkis pour mon livre Jean, l'Évangile enfilé. Il explique très bien ce qu'est une civilisation orale. Nous avons vu aussi dans la première émission que le texte araméen du Nouveau Testament s'appelle la Peshitta. Et on le trouve sur Internet sous différentes formes, notamment le fac-similé du manuscrit Kabouri, qui ne présente pas de variantes notables par rapport au très ancien manuscrit qu'on appelle Vatsir 12, lequel est la copie en syro-araméen d'un original apporté de Jérusalem au 1er siècle. Et nous savons que cela est homogène à certains textes latins anciens, par exemple Bricianus, ou textes grecs anciens, par exemple le Codex de Bèze. Voilà, ça c'était notre première émission. Alors dans notre seconde émission, nous allons essayer de retrouver la toute première composition de Jean. Donc, ce n'est pas l'évangile entier tel qu'on le connaît. C'est sa toute première composition. Alors, il est établi que l'apôtre Jean a commencé à enseigner avec l'apôtre Pierre. Pierre et Jean sont les deux seuls qui avaient osé suivre Jésus, jusque chez Anne et chez Caïphe, après l'arrestation de Jésus. Évangile de Jean, chapitre 18. Et le matin de Pâques, ils sont tous les deux ensemble au tombeau vide. Le texte des Actes, chapitre 3, verset 11, nous dit aussi que tous accouraient vers Pierre et Jean sous les colonnades de Salomon, les colonnades qui étaient ouvertes à tous les circoncis et à leurs familles. Il fallait un sacré cran pour le faire, au nez et à la barbe du Sanhédrin, peu après la mort de Jésus. Le premier enseignement de Pierre et de Jean était un enseignement de grande qualité. Les seuls autorisés à parler sous la colonnade de Salomon sont les rabbis. Et pour être rabbi, il faut avoir passé son examen de majorité religieuse, avoir été enseigné soi-même par un rabbi et avoir 6 élèves. C'était le cas pour les apôtres, et Pierre et Jean en particulier. Ils ont suivi l'enseignement de Rabbi Jésus, qui, Jésus l'affirme lui-même devant le grand prêtre, était un enseignement très structuré. Il dit « J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. » Bible de Jérusalem, Jean chapitre 18, verset 20. Et qu'il faut traduire de l'araméen « J'ai dit et répété, mot à mot, avec le verbe « malel » dont il faut connaître le sens technique précis, articulé au sens de la répétition d'une parole construite et mémorisable. Pierre et Jean ont certainement commencé par avoir eu la responsabilité de 6 disciples. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus a nommé 72 disciples. 6 fois 12, chaque apôtre a pu en avoir 6 en particulier à suivre et à accompagner, notamment après la Pentecôte, bien sûr. Ils peuvent donc être considérés comme rabbis et enseignés sous les colonnades de Salomon. Actes des Apôtres, chapitre 3. Certes, Pierre et Jean ont témoigné dès la Pentecôte, mais là, sous les colonnades de Salomon, on peut penser qu'il s'agit d'un enseignement qui dure toute l'année, à partir de Rosh Hashanah, selon les us et coutumes liés aux contraintes des travaux agricoles, et jusque la période des moissons, donc de l'automne, Rosh Hashanah, jusque le mois de mai-juin. Et ils donnèrent alors un enseignement très structuré. Par ailleurs, Pierre et Jean s'attendaient à devoir témoigner devant le tribunal du Sanhédrin, ce qui constitue un motif supplémentaire pour apporter beaucoup de soin à leur composition. En effet, dans cette civilisation qui s'étend du Nil à l'Indus, un témoignage au tribunal ne peut être fait que par oral, par au moins deux témoins directs et sans passer par un tiers. Il n'y a pas d'avocat, pas de plaidoirie. Les témoins préparent donc une déposition orale apprise par cœur et soigneusement composée. Un récit gestué et cette déposition, en araméen tachita, sera tracée par écrit par les greffiers du tribunal. Pierre et Jean s'étaient préparés à donner à deux voix un témoignage d'autant plus irréfutable que de nombreux auditeurs le connaissaient déjà eux aussi, par cœur, au mot près. Pierre et Jean eurent en effet à témoigner au tribunal, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 7. Nous avons aussi des indications sur le plan général de cette prédication. En effet, en Actes des Apôtres chapitre 2, dans son discours de Pentecôte, Pierre donne le plan de son enseignement de base, que l'on retrouve lorsqu'il enseigne Corneille, Actes des Apôtres chapitre 10. Son enseignement de base, c'est premièrement, Dieu a accrédité Jésus ou l'a oint d'une onction. Deuxièmement, Jésus a fait des miracles, des guérisons, des résurrections. Et des prodiges et des signes, ça évoque aussi l'Eucharistie. Il a été crucifié et il est ressuscité. Voilà les points principaux de l'enseignement de base de Pierre. À partir de ce début de plan, il nous faut plonger dans les évangiles. Alors l'évangile de Pierre, c'est l'évangile de Marc, parce que c'est Marc qui a publié par écrit le témoignage de Pierre qui était d'abord récité oralement à Rome. Et l'évangile de Jean. Il faut y chercher les traces de plusieurs jeux d'alternance à deux voix qui suivraient ce plan. Donc, première structure d'alternance à deux voix. Eh bien, on va commencer avec le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et l'appel des apôtres. Comprenez bien, Pierre et Jean doivent témoigner de cela. En des temps remarquables, l'année sabbatique 26-27, veille de l'année jubilaire 27-28, et en un lieu qui ne passe pas inaperçu, au gué du Jourdain, là où convergent les routes de commerce de l'Orient vers Jérusalem, Jean-Baptiste, fils du chef des prêtres de la tribu de Juda, Zacharie, institue une liturgie. Les pénitents sortent de Judée au gué. Ils s'avancent dans une zone semi-désertique, mémoire de l'Exode, et ils se font baptiser un peu plus en amont, laissant littéralement tomber leurs péchés dans le courant du Jourdain qui les emporte vers la mer morte. Ces événements sont connus de tous, mais Pierre et Jean ont à expliciter le témoignage que Jean-Baptiste a rendu à Jésus. Et aussi comment eux-mêmes sont devenus les disciples de Jésus. Leur témoignage en alternance est ici très nettement structuré en cinq étapes. Donc, nous ouvrons les évangiles de Marc, c'est-à-dire le témoignage de Pierre, et l'évangile de Jean, chapitre 1. On commence par le témoignage de Pierre. Jean-Baptiste, Jean, dont le nom signifie « Dieu fait miséricorde », institue un baptême de conversion et de pardon des péchés près du gué du Jourdain. Témoignage de Jean. Jean-Baptiste témoigne devant la commission officielle composée de prêtres et de lévites. Ils veulent savoir s'il ne serait pas le Messie. Mais ils devraient savoir que Jean n'est pas descendant de David. La citation de la prophétie d'aplanir une voie pourrait faire croire que Jean-Baptiste serait en train de préparer la venue de quelqu'un qui va prendre le pouvoir comme roi. Il faudrait donc enquêter à nouveau pour savoir quelles sont ses intentions. Témoignage de Pierre. Jean-Baptiste annonce celui qui vient derrière lui et qui baptisera dans l'Esprit-Saint. Et mot à mot à partir de l'araméen, Pierre témoigne que Jean-Baptiste a dit « Et même nous qui sommes prêtres, Jean-Baptiste est prêtre et fils de prêtre, hein, Zacharie, et même nous qui sommes prêtres ne sommes pas dignes de dénouer les liens de ses sandales. » Témoignage de Jean devant les pharisiens qui viennent chercher des arguments pour le faire emprisonner, Jean-Baptiste réaffirme ce qu'il a dit pour les inviter à reconnaître Jésus. Je dis bien « reconnaître ». En araméen, il n'y a pas de différence entre « connaître » et « reconnaître ». Il n'y a pas de « re ». Nous sommes maintenant au centre du témoignage, donc troisième étape, témoignage de Pierre. Jésus arrive et reçoit le baptême de Jean-Baptiste. La Bible de Jérusalem traduit du grec en ces termes. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui et une voix vint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. En grec, eudokeza. La voix du Père fait écho à Isaïe 62, verset 4, mais le texte araméen est beaucoup plus fort. En araméen, nous avons « Tu es mon fils bien-aimé, en toi ma volonté zba. » L'araméen « en toi ma volonté » indique que Jésus, en son humanité, porte la volonté divine du Père. Le lieu de l'unité de la personne du Christ est ici indiqué. C'est l'unité de sa volonté humaine avec la volonté divine. C'est un point très important qui permet de comprendre la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme, comme on dit. L'affadissement apporté par le grec a peut-être contribué aux difficultés qui sont apparues plus tard, dans les discussions relatives à la personne de Jésus et jusqu'à Saint Maxime le Confesseur. Alors venons-en au témoignage de Jean. Voyez combien ça va bien s'enchaîner. Jean-Baptiste présente Jésus, voici l'agneau de Dieu. L'image désigne celui qui sera sacrifié à la place d'Isaac, ou encore l'agneau pascal. Jean-Baptiste précise qui enlève le péché du monde, comme on enlève quelque chose de lourd qui pèse sur ses épaules en soulageant les nôtres. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Les chrétiens sont des oints. Jean-Baptiste reçoit un signe, la colombe, qui lui confirme que Jésus est le Messie. Quatrième étape. Cette fois, nous commençons par le témoignage de Jean. Deux disciples majeurs, donc pouvant témoigner, suivent Jésus comme un rabbi. Un rabbi, alors « rab », ça veut dire « grand ». Et alors, il y a soit la terminaison « i » pour dire « mon rab », soit la terminaison « en » pour dire « notre ». Donc, « rabbi » ou « rabban ». Notre rabbi, notre. Le rabbi est l'enseignant du niveau supérieur. Témoignage de Pierre. Jésus va au désert pour 40 jours de jeûne, pour y vaincre le tentateur, Satan. Une fois vaincu la dernière tentation qui le place au pinacle du temple, les anges le servaient. Le terme de service, utilisé ici dans la Peshitta, est très précis. C'est un pshanshan, un service liturgique, dont les anges sont les pshanshanés, rôle joué par les lévites dans la liturgie du temple. Autrement dit, Pierre, sous les colonnades de Salomon, est en train de suggérer que Jésus est le temple. C'est fort. Témoignage de Pierre. Cinquième étape. Jésus revient de son séjour au désert et apprend que Jean-Baptiste a été arrêté. Il repart en Galilée et au bord du lac, il appelle Simon, André, Jacques et Jean. Témoignage de Jean. André a amené Simon à Jésus. Simon, fils de Jonas, devient Pierre. Jésus appelle aussi Philippe et Nathanaël. Fin de cette première structure en alternance. Maintenant, on peut extraire ce que Jean a donné comme témoignage et obtenir, eh bien, toute une partie de l'évangile de Jean, notamment au chapitre 1. Deuxième structure en alternance. Les miracles. Les apôtres témoignent des signes qui accréditent Jésus. Dans l'évangile de Marc, il y a 14 récits de miracles. On a l'embarras du choix. Mais nous allons choisir ceux qui font écho aux signes moins nombreux de l'évangile de Jean qui ne sont pas déjà proclamés dans les autres colliers. Alors, observez. Pierre, donc évangile de Marc chapitre 1. Le miracle à la maison de Capharnaüm. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. La fièvre tomba. En araméen, le verbe chouak. Donc le miracle dans une maison. Eh bien, chez Jean, on a aussi un miracle comme ça dans une famille. C'est le miracle des noces de Cana, où Jésus change l'eau en vin. Pierre, à partir de la maison de Capharnaüm qui a été bénie par le miracle, Jésus fait de nombreuses guérisons et des libérations. Jean, à partir de Cana, Jésus guérit le fils de l'officier royal. Évangile de Jean, chapitre 4. On voit les échos, hein? Et dans ce récit, les témoins disent au père de l'enfant guéri, hier, à la septième heure, sa fièvre est tombée d'un coup. On a encore une fois le verbe « chouac », comme la fièvre de la belle-mère de Pierre est tombée, « chouac ». Et comme aussi on laisse tomber les péchés, les offenses et les dettes dans la prière du Notre Père. Ensuite, Pierre nous raconte un miracle devant une commission d'enquête à Capharnaüm. Miracle de la guérison d'un paralytique. Jean raconte la guérison d'un paralytique devant tout le monde à Jérusalem. Pierre raconte la guérison d'un homme à la main desséchée, là encore, devant tout le monde, devant une commission d'enquête. Jean raconte la guérison d'un aveugle né, là aussi, devant tout le monde, devant une commission d'enquête, Jean chapitre 9. Bien sûr, pour que le témoignage en alternance soit équilibré, il faut que le chapitre 5 de Jean et le chapitre 9 aient eu une version courte. Pierre raconte la résurrection d'une jeune fille, ainsi que la guérison d'une femme souffrant d'hémorragie. C'est au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc. Jean raconte la guérison d'un homme, Lazare. Fin de ce témoignage en alternance. J'ouvre ici une parenthèse fort intéressante. Vous savez qu'à notre époque, on a tendance à douter de tout. Et alors on se dit, « Oh, la résurrection de Lazare n'est racontée que dans l'évangile de Jean. Donc, Jean l'a inventée. Ce n'est pas historique. » Quoi donc ? Dès lors que l'on a compris que Pierre et Jean ont fait une première composition, orale, à deux voix, pour donner leur témoignage éventuellement même devant le tribunal du Sanhédrin, mais d'abord dans un enseignement structuré sous les colonnades de Salomon, Jean ne va pas répéter Pierre, et Pierre ne va pas répéter Jean. Et donc Pierre donne la résurrection d'une jeune fille, et Jean donne la résurrection de Lazare. Il n'y a aucune objection à l'historicité d'un tel événement. Venons-en à la troisième structure d'alternance à deux voix, le pain de vie. Nous savons qu'après le martyr de Jean-Baptiste, ses disciples vont l'ensevelir dans un tombeau. Puis les disciples de Jésus rentrent de mission et Jésus les amène dans un lieu à l'écart. Évangile de Marc, chapitre 6. On peut alors comprendre qu'étant le proche parent de Jean le Baptiste, la coutume veut que Jésus offre une petite réception. On dit un koubala de deuil. Koubala, ça veut dire réception. Et dans le koubala de deuil, on mange traditionnellement du pain d'orge non levé, accompagné non pas de viande, mais de poisson. Sans doute parce que le poisson évoque la mer et que la mer évoque le séjour des morts. Un jeune garçon a deux gros poissons et cinq pains, c'est-à-dire le nécessaire pour les apôtres. Or voici que la foule les y rejoint. Jésus a pitié de cette foule sans berger. Il donne un long enseignement, mais il faut bien les recevoir au repas. C'est au nom du défunt que l'on reçoit. C'est dans ce contexte qu'a lieu la première multiplication des pains, que l'on retrouve à la fois chez Jean et chez Marc, chez Pierre. Alors comment retrouver ce qu'a dit Jean et ce qu'a dit Pierre dans le témoignage en alternance sous les colonnades? Eh bien, on a un critère assez facile. Jean a plus de détails pour le début et Pierre pour la fin. Donc c'est Jean qui commence, et puis quand Pierre et Jean vont se séparer, chacun fera un résumé pour son propre compte de la partie manquante. Alors Jean. Jean chapitre 6, versets 1 à 15, mais il faut enlever le verset 4. On expliquera pourquoi plus tard. Jean raconte la multiplication des cinq pains d'orge, c'est-à-dire pour un koubala de deuil. C'est un signe très fort. Il rappelle la manne donnée par Moïse, à ceci près que la manne descendait du ciel, alors que Jésus multiplie, ce qui prépare le sacrement qui multipliera sa présence, le sacrement eucharistique, le pain de vie, qui multiplie sa présence partout où est célébré l'Eucharistie. Ensuite, la foule veut faire de Jésus un roi, mais Jésus s'échappe. Nous sommes au verset 15 et sur le manuscrit araméen Kabouri, il y a une marque un peu bizarre qui est en fait une marque de césure pour les récitatifs, une marque d'oralité si vous voulez. Un indice que le récitatif, la perle, s'arrête là. Pierre. Pierre témoigne en donnant quelques précisions. Il précise la disposition, il y a 50 rangées de sang. Il y a 5000 hommes et les chiffres ont un sens. Une multiplication de 5 pains pour les Hébreux qui se reconnaissent dans les 5 livres de la Torah et les restes remplissent 12 corbeilles pour les 12 tribus. Pierre, en bon liturgiste, responsable même de la liturgie, transmet surtout les gestes de Jésus. Il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donnait à ses disciples pour les leur servir. Marc chapitre 6, verset 41. Les apôtres qui témoignent du nouveau rite chrétien. Témoignage de Jean. Jésus rejoint les apôtres en bateau, en marchant sur la mer, qu'il apaise. Il domine la mer, qui est aussi le symbole de la mort. On peut y voir une annonce de la mort et de la résurrection. La foule a rejoint Jésus et l'appelle « Rabbi », ce qui signifie qu'elle a laissé tomber l'idée de le faire roi. Elle demande humblement ce qu'il faut faire pour entrer au service de Dieu. Jésus demande à ses auditeurs de travailler à croire. L'apprentissage par cœur des récitatifs fait partie de ce travail. Apprendre par cœur, avec le cœur. Il faut travailler pour le pain qui demeure en vie éternelle. Ce qui implique de purifier toutes les passions de l'âme. Et cela attire une première résistance de la part de ceux qui se gonflent de la tradition des hommes. À ceux qui se réclament de Moïse, Jésus répond que ce n'est pas Moïse, mais son Père qui donne le pain qui descend des cieux. C'est lui, Jésus, qui est le pain de vie. Voilà, nous sommes au centre de cet enseignement sur le pain de vie. Pierre relate une seconde multiplication des pains que l'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Pour 4000 hommes, et il reste 7 corbeilles. On voit le symbolisme des nations. Jésus fait une réflexion sur le levain des pharisiens, ce qui évoque la Pâque juive et la question des pains sans levain. Plus tard, quand Pierre et Jean se sépareront, la mention de la Pâque en Jean chapitre 6, verset 4, pourrait se référer à cette seconde multiplication des pains. Encore le témoignage de Pierre. Près de Césarée de Philippe, Jésus annonce sa passion et emmène 3 disciples sur la montagne où il est transfiguré. Dans la vie ordinaire, tout comme dans le sacrement, Jésus voile la gloire qui s'est manifestée lors de la transfiguration. Témoignage de Jean. La foule acclame en Jésus son roi. Hosanna ! Jean chapitre 12, une acclamation que l'on retrouve dans la liturgie eucharistique. Hosanna s'écrit avec un S. Cela fait référence au salut. C'est un mot sacré. Encore le témoignage de Jean. La foule entend la voix céleste du Père qui témoigne en faveur du Fils, ce qui fait écho à la transfiguration. Puis Jésus annonce de quelle mort il mourra, ce qui fait écho à l'annonce de la passion près de Césarée de Philippe. Voyez, Pierre et Jean se répondent et se font écho sans se répéter. Témoignage de Pierre, Marc chapitre 14, Jésus envoie 2 disciples pour préparer le repas de la Pâque. Eh bien, peut-être Pierre et Jean. Témoignage de Jean chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est une préparation au rite sacré. Témoignage de Pierre, l'institution de l'Eucharistie, ou courbana, un mot qui veut dire rencontre, mais aussi offrande et sacrifice. Cette structure d'alternance nous montre combien l'enseignement eucharistique est structurant dans l'enseignement primitif des apôtres. Un familier de l'Évangile pourrait se demander pourquoi Jean ne donne pas le récit de l'institution de l'Eucharistie. La raison est simple. Ces événements ont donné lieu à des structures d'alternance à 2 voix. Ce que Pierre a raconté avec précision, il serait inconvenant pour Jean d'en témoigner à nouveau juste après Pierre. Quatrième structure d'alternance à 2 voix. La passion. Pour un premier enseignement sous les colonnades de Salomon, on ne va pas tout dire. Par exemple, on ne va pas parler du reniement de Pierre, ni des intrigues de Judas. Ce n'est pas un sujet. Nous retenons ceci. Témoignage de Pierre. Jésus et ses apôtres quittent le cénacle pour le domaine de Gethsémani. Au jardin, commence une veillée de prière durant laquelle, par 3 fois, Jésus demande à son Père d'éloigner cette coupe. Cependant, il unit sa volonté à celle du Père. Enfin, conscient que l'heure est venue, il fait lever les apôtres qui s'étaient endormis, car celui qui le livre est tout proche. Témoignage de Jean. Judas arrive avec la cohorte des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens. Voyez comme ça s'enchaîne parfaitement. Jésus, debout, interroge les gardes. Qui cherchez-vous ? Témoignage de Pierre. C'est le procès nocturne de Jésus au Sanhédrin, devant Caïphe. Se produisent de faux témoins dont les témoignages ne concordent pas. Puis, Caïphe interroge Jésus, qui confirme qu'il est le Christ, le Fils béni. Et Jésus ajoute, « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant sur la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » C'est alors que le grand prêtre déchira ses tuniques et que la condamnation de Jésus est décidée, ou plutôt ratifiée. car la décision en fait a déjà été prise après la résurrection de Lazare. Ce qu'a dit Jésus se réfère au prophète Daniel, livre de Daniel chapitre 7. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel pour juger les empires et établir un royaume d'humanité, ce qui adviendra lors de la venue glorieuse du Christ. Enfin, Jésus est déféré devant Pilate. Évangile de Marc, chapitre 15, verset 1. Et on enchaîne avec le témoignage de Jean. Jean, chapitre 18, c'est l'instruction par Pilate. Jésus lui dit que son royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, ses serviteurs auraient combattu. Mais non, il n'est pas d'ici. En araméen, on a la particule « min » qui signifie que son royaume ne vient pas de ce monde, c'est-à-dire ne vient pas des moyens coercitifs de ce monde, par exemple les combattants, les armées. Et pourtant, il est roi. Il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est comme ça qu'il est roi, en rendant témoignage à la vérité. Et Pilate ne trouve contre Jésus aucun motif de condamnation. On enchaîne avec le témoignage de Pierre. Pilate est manipulé par les chefs des prêtres qui réclament la libération du faux messie, Barabbas. Et Pilate décide de faire flageller Jésus. Ici, contrairement à la traduction grecque qui dit que Pilate a fait flageller Jésus, le texte araméen parle seulement d'une décision de Pilate, ce qui s'emboîte parfaitement avec la perle suivante, par Jean. Jean. Donc Jean chapitre 19. Jésus est flagellé, lacéré. Pilate l'expose, debout. Jésus est hiératique, couronné d'épines et vêtu de pourpre. Voici l'homme. Les chefs des prêtres et les gardes du temple grondèrent, suspends-le. Mais Pilate n'a pas de motif de condamnation, au-delà des coups de fouet pour trouble à l'ordre public, et ne peut pas aller plus loin. Les Judéens font alors un chantage. Si vous le libérez, vous n'êtes pas des intimes de César. Pilate a un point faible, il est entré dans l'intimité du milieu impérial par son épouse. Alors il est vexé. Et les Judéens disent, car tous ceux qui par eux-mêmes se font rois complotent contre César. Complotage. Est-ce que Jésus pourrait se faire adouber comme roi avec le soutien de l'armée parthe, l'ennemi de Rome? Pilate prononce le jugement et les chefs des prêtres apostasient. Nous n'avons d'autre roi sinon César. Alors que tout l'Ancien Testament dit que Dieu est roi, les chefs des prêtres apostasient. Alors attention pour la suite, l'expression des heures est différente de la nôtre. On ne désigne jamais un instant, mais une tranche horaire. En plus, les heures peuvent être les fractions du jour de 12 heures, avec des durées plus longues en été. Et la sixième heure désigne alors midi. Et les ténèbres de la sixième à la neuvième heure, selon saint Marc, chapitre 15, s'étendent environ de midi à 15 heures. Mais on peut aussi compter en veille de 3 heures, depuis le coucher du soleil. Le vendredi à la sixième veille, selon saint Jean, chapitre 19, verset 14, désigne alors la tranche horaire de 9 heures du matin à midi. Le témoignage de Jean et celui de Pierre s'emboîtent parfaitement. Continuons. Témoignage de Jean. L'écriteau proclame la royauté de Jésus. Et pendant que l'on expose Jésus en croix, ce sont donc les bourreaux du temple qui font ce sale travail, les soldats romains font quatre parts des vêtements sans déchirer la tunique. C'est une tunique sans couture, c'est-à-dire sacerdotale. Au pied de la croix, avec sa mère, se tient Marie de Cléophas. C'est le nom de jeune fille de l'épouse d'Alphée, mère de José et belle-sœur de la mère de Jésus, et mère Marie de Magdala. Jésus regarde avec amour sa mère et le disciple selon son cœur. qui est appelé à devenir disciple auprès d'elle. Témoignage de Pierre, les ténèbres recouvrent la région. Jésus dit « Lili, mana shwaktani ». Et Pierre cite exactement le psaume 22. « Alai, alai, mana shwaktani ». Que l'on peut traduire « mon Dieu, jusqu'où me laisses-tu tomber » c'est-à-dire jusqu'au séjour des morts, où Jésus doit annoncer la bonne nouvelle aux défunts. Témoignage de Jean, on ne lui brise pas les os comme l'agneau de la Pâque, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, ou comme dans le psaume 34. Un coup de lance le transperce, comme l'a annoncé le prophète Zacharie. L'eau qui jaillit avec le sang réalise la prophétie d'Ézéchiel sur la source jaillissante du temple. Le temple est le corps du Messie. Les faits sont cohérents entre eux et avec l'Écriture. En l'occurrence, avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Une cohérence parfaite pour les rabbis les plus exigeants. Pierre, Joseph d'Arimathie, un notable, demande le corps. Quant à Marie-Madeleine et Marie de José, elles ont vu comment il avait été soigneusement déposé. Elles pourront donc témoigner. Et nous arrivons à la cinquième structure d'alternance, la résurrection. Jean, Marie de Magdala, constate que le tombeau est ouvert, qu'il est vide. Elle pense que le corps de Jésus a été enlevé. Elle revient en courant prévenir Pierre et le disciple bien-aimé, Jean. Témoignage de Pierre, d'autres femmes disciples vont au tombeau. Elles n'ont pas été averties par Marie de Magdala et se demandent qui leur ouvrira la pierre du tombeau. Témoignage de Pierre encore, elles entrent et voient un jeune homme, un ange, mais elles ne savent pas, qui leur annonce la résurrection de Jésus et ajoute « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée ». Témoignage de Jean. Pierre et Jean courent au tombeau. Jean voit les linges qui ne sont pas en désordre, comme cela aurait été le cas si on avait enlevé le corps de Jésus. Il voit et il croit. Encore le témoignage de Jean. Marie de Magdala revient et regarde à l'intérieur du tombeau. Sans doute parce qu'il est à contre-jour, elle ne reconnaît pas tout de suite Jésus, mais elle le reconnaît à sa voix. Jésus lui dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et cette phrase, Marie de Magdala doit l'annoncer aux disciples. Témoignage de Pierre. Après avoir vu le Christ, Marie de Magdala témoigne auprès des apôtres, qui ne la croient pas. De même, Jésus apparaît à deux disciples qui s'en allaient à la campagne. Mais les apôtres ne les croient pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze pendant qu'ils étaient à table. Témoignage de Jean. Le Christ apparaît aux apôtres réunis au Cénacle. Thomas est absent. Autre témoignage de Jean. Une semaine plus tard, Jésus revient et Thomas le reconnaît. Jésus invite Thomas à plonger sa main dans son côté et Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Témoignage de Pierre. Jésus dit aux apôtres d'aller dans le monde entier. Ceux qui, croyants, seront baptisés ont la vie. Témoignage de Pierre encore. Jésus s'est élevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Les apôtres commencent leur mission, que le Seigneur confirme par les signes qu'ils accomplissent. Eh bien, vous avez donc la synthèse de cette première étape de la composition, l'appel des douze après le baptême de Jésus au Jourdain. Le collier des miracles, le collier du pain de vie, le collier de la passion, le collier de la résurrection. Retrouvez tout cela dans mon livre « Jean, l'évangile enfilé » aux éditions Parole et Silence. Ou sur mon site internet foi-vivifiante.fr. Foi-vivifiante.fr. Jean, le filet retrouvé aux éditions Parole et Silence. Merci, au revoir, à bientôt.